Bonsoir. Couturière Maria Kananga, au occidental de la troisième conférence des gouverneurs autour du CERM, la cohésion nationale dans l'unité. Comment analyser les recommandations issues de cette conférence? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu et porte-parole des gouverneurs de la RDC. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Alors, nous venons de perdre le gouverneur de la province du Nord Kivu. La réalisation va essayer de le retrouver. Délis Sessanga, député national de l'opposition, il est président du parti politique En Vol. Monsieur Sessanga, bonsoir.
Bonsoir.
Et maître Gilbert Kiatingé, avocat et expert en décentralisation. Il est avec nous dans ce studio, maître Kiatingé. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Malunga Kubali de Bandunduville. Depuis que la conférence des gouverneurs a été initiée, nous ne bénéficions de rien que des discours qui ne nous produisent rien du tout. Merci de nous suivre à Kananga, au Kasa Occidental, sur la 93.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La troisième conférence des gouverneurs a pris fin hier mardi à Kananga, chef-lieu du Kasai occidental. Plusieurs recommandations ont été faites au gouvernement. C'est entre autres l'examen des voies et moyens pour poursuivre les efforts de financement des campagnes agricoles en province et la finalisation du projet de loi sur la Caisse nationale de péréquation. D'autres recommandations de ces assises avec le rapporteur de cette conférence, le ministre Richard Miège Manguez, dans ses propos recueillis par Henri Kambala Mujanaï.
La conférence s'est félicitée de l'exécution annoncée à partir du mois de mars courant de ses précédentes recommandations tenant à l'augmentation de l'enveloppe de la rétrocession des ressources aux provinces, tenant compte de la tendance à l'augmentation des recettes budgétaires propres. Il a été néanmoins recommandé aux provinces de faire le même effort dans la rétrocession des ressources dues aux entités territoriales décentralisées. S'agissant du processus de décentralisation en cours, la conférence a recommandé l'intensification du rythme de sa mise en œuvre en vue de faire échec au plan séparatiste de force du mal. À cet effet, le gouvernement a été appelé à prendre des mesures qui s'imposent afin de l'organisation des élections provinciales, urbaines et locales dans les meilleurs délais, l'amorce du processus de transfert des charges relevant des compétences des provinces à ces dernières, concomitamment au transfert des ressources, l'application de la législation en matière de recouvrement des recettes relevant de la compétence des provinces. Elle a en outre recommandé la permutation des agents publics de l'État, cadres de commandement, au sein ou en dehors de leur province d'origine, de manière à réduire le clientélisme qui affaiblit leur rendement.
Le ministre Miège a indiqué que la quatrième conférence des gouverneurs se tiendra au mois de septembre 2013 à Mbandaka. La réalisation me signale que le gouverneur Julien Paluku est en ligne. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir Gilbert Kiatingé ainsi qu'à Délis Sessanga.
Alors monsieur le gouverneur, c'est la troisième conférence des gouverneurs depuis que la constitution a été adoptée en 2006 et l'article 200 de la constitution dit qu'elle doit se tenir au moins deux fois par an. Pourquoi elle ne se tient pas régulièrement cette conférence de gouverneurs?
Oui, merci madame. Je pense comme vous l'avez dit, la constitution a institué la conférence des gouverneurs pour que se tienne deux fois l'an. Mais comme vous le savez, la loi qui porte l'organisation de cette conférence a été votée en octobre 2008. Et que donc on ne peut pas considérer que la conférence ne s'était pas réunie depuis 2006. Ça c'est la première précision. Mais également, après la loi qui organisait la conférence, il s'est passé 5 ans. Et en 5 ans, on devait avoir 10 sessions. Malheureusement, nous ne sommes qu'à 3 sessions. Donc, je crois que dans la conférence qui s'est tenue à Kananga, il y a eu une grande recommandation qui a été formulée, celle de la tenue régulière des sessions de la conférence des gouverneurs au moins 2 fois l'an. Donc, c'est une grande recommandation et vous avez pu le suivre. Déjà en septembre 2013, nous serons encore en Bandaka pour que les sessions de la conférence des gouverneurs puissent être régulières parce que c'est de là que nous émettons nos avis sur la marche du pays, sur les grandes décisions qui doivent être prises pour que le pays retrouve son développement.
Alors, monsieur le gouverneur, vous êtes aussi porte-parole des gouverneurs. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de cette conférence. Hormis celle évoquée par le ministre Mouyej, quelles sont les autres recommandations de cette 3e conférence des gouverneurs?
Oui, il y a plus de 40 recommandations qui ont été émises dans la conférence des gouverneurs.
Donnez-nous l'essentiel.
3 ou 4 chapitres. Les grandes recommandations concernaient effectivement la réaffirmation du principe de décentralisation du pays, parce que tous nous avons compris que le socle du développement de ces pays, c'est la décentralisation. Et par décentralisation, nous avons demandé que soit fait rapidement le transfert de toutes les compétences qui sont exclusives aux provinces. Parce que comme vous le savez, l'éducation, la santé, l'agriculture sont des compétences exclusives aux provinces et la conférence de Kananga a tenu à ce que cela soit rapidement fait. De deux, on a dans la conférence de Kananga, il a été convenu effectivement la hausse des allocations qui sont données aux provinces parce que l'ensemble de l'enveloppe qui était donnée aux provinces était estimée à 12 milliards de francs congolais. Cette enveloppe va désormais passer de 12 milliards à 15 milliards. Il y a donc une augmentation de 3 milliards. Et ces montants-là qui seront rétrocédés aux provinces vont devoir bénéficier également aux entités territoriales décentralisées pour que le développement puisse commencer par la base. Nous avons également adopté une résolution qui concerne la caisse de péréquation pour financer le déséquilibre entre les provinces. Ensuite, nous avons demandé que désormais, les budgets d'investissement qui étaient gérés à partir du pouvoir central soient gérés par les provinces elles-mêmes. Parce que depuis 2007, effectivement, aucune province n'a jamais bénéficié ou n'a jamais géré elle-même les budgets d'investissement. Toutes les allocations que nous avons toujours reçues, ce sont des budgets de fonctionnement qu'on nous envoie à partir de Kinshasa. Et donc, après cette conférence, nous avons tenu à ce que les budgets d'investissement soient gérés par les provinces elles-mêmes pour éviter les comportements du genre on achète des roues à Kinshasa, on les transfère en province, et une roue qui devait coûter $2 en province, elle arrive en province à 15, 20, $30. Donc, désormais, toutes les compétences des provinces seront gérées par elles-mêmes, le budget d'investissement ne sera plus géré à partir de la capitale, il sera directement géré par les provinces, parce que toutes ces 5 ans que nous avons passés, aucune province n'avait bénéficié effectivement de ces budgets d'investissement.
Alors, monsieur le gouverneur,
oui.
On peut retenir que ce sont là les 3 grandes résolutions de cette conférence. Vous les avez résumées. Commençons par la décentralisation. La conférence a recommandé l'intensification du rythme de la mise en œuvre de la décentralisation pour, je cite, faire échec au plan séparatiste des forces du mal. Fin de citation. Est-ce qu'il faut comprendre par là que vous demandez l'accélération du processus de décentralisation, non pas parce que cela est prévu par la Constitution, mais parce qu'il y a une situation des guerres ou d'insécurité dans le pays?
Non, je pense que les rythmes dont on a parlé, c'est effectivement à permettre à ce que le développement commence par la base. Je pense que les 5 ans que nous avons pu passer ont démontré effectivement que il y avait encore les stigmates ou les signes d'une centralisation qui ne disait pas son nom. Et que donc la conférence a réaffirmé que on devra passer effectivement à la décentralisation parce que c'est le développement de la RDC passe par là. Et la décentralisation suppose le transfert des compétences, le transfert des charges, le transfert des ressources pour permettre aux provinces et aux ETD effectivement de faire face aux besoins. Il est anormal, par exemple, que pour construire une école, on pense que c'est Kinshasa qui va identifier l'école à construire dans une chefferie. Donc c'est cela un peu la grande résolution qui est sortie au terme de la décentralisation qui a été voulue par tous les partis.
Mais monsieur le gouverneur, lorsque vous dites faire échec au plan séparatiste, qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que avec les retards que nous avons connus dans la décentralisation, il faille des projets du type balkanisation, du type fédéralisme. C'est effectivement pour faire échec à ce genre de concepts qui cherchent à semer la confusion dans l'opinion que la conférence effectivement a recommandé qu'on puisse accélérer les rythmes pour que les gens comprennent que c'est plutôt de la décentralisation que le développement de la RDC va être boosté.
Alors on va prendre pour vous, monsieur le gouverneur, cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga.
Professeur Ignace Ndala depuis Kolwezi au Katanga. À mon humble avis, et loin de tout pessimisme autorisé, la rencontre de Kananga n'a eu pour mérite d'avoir réuni le gouverneur autour du chef de l'État. Il a fallu non pas demander d'intensifier le rythme du processus de la décentralisation ou prendre des dispositions pour quoi que ce soit, mais exiger l'application effective de la décentralisation et en particulier la retenue des 40%. Sinon, il y a risque que la conférence des gouverneurs ne soit qu'une formalité en RDC. Et entre-temps, le peuple souffre. Je voudrais savoir ce qu'a dit la conférence sur la guerre à l'Est.
Monsieur le gouverneur, réaction.
Oui, je pense que le professeur a ses raisons. On n'a pas examiné que la question de la décentralisation seule. On a examiné également la politique générale du pays, la sécurité, les sociales de la population. Parce que, comme vous le savez, beaucoup de gens ont suivi l'innovation, par exemple, du Premier ministre qui a créé la Troïka stratégique pour stabiliser les cadres macroéconomiques. La conférence a, par exemple, demandé que on puisse, à partir de la stabilisation des cadres macroéconomiques, avoir des incidences sur la vie sociale de la population. Je peux vous dire que, à travers cette conférence, un audit international va être diligenté au niveau du port de Matadi, qui est le port le plus cher du monde, pour que, effectivement, on sache pourquoi est-ce que les biens de première consommation sont chers à Kinshasa, alors que ils arrivent au port de Matadi à un prix légèrement inférieur. Donc ce sont des grandes questions qu'on a débattues. Il n'y a pas seulement que la décentralisation, on a parlé de la politique générale du pays, les sociales de la population et les stratégies de développement de la RDC.
Merci, monsieur le gouverneur. Délice Sanga, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition, vous êtes président du parti politique En Vol. Parmi les recommandations issues de la troisième conférence des gouverneurs, on peut citer entre autres l'intensification, la conférence qui demande l'intensification du rythme de la mise en œuvre de la décentralisation. Et puis sur le plan économique, développement économique, la conférence a recommandé l'examen des voies et moyens pour poursuivre les efforts de financement des campagnes agricoles dans les provinces et la finalisation du projet de loi sur la Caisse nationale de péréquation. Nous sommes dans les volets décentralisation. Comment vous analysez cette demande de la conférence d'intensifier le rythme de la mise en œuvre de la décentralisation?
Oui, mais vous savez, quand on suit le gouverneur Paluku, malgré les précautions du langage, on se rend à l'évidence, on est malheureusement obligé de le faire, de constater que la décentralisation n'a jamais démarré dans ce pays et que depuis les dernières élections, celles de 2006, on est allé d'un processus sur lequel on espérait avoir des provinces qui auraient davantage des responsabilités et à même de pouvoir les exercer, vers des provinces qui sont aujourd'hui atrophiées et qui sont au service du pouvoir central. Elles sont totalement inexistantes. Ce qui s'est traduit par ailleurs par ces dysfonctionnements, on n'a vraiment tellement pas besoin, en l'état actuel de fonctionnement des provinces, d'avoir plusieurs sessions de la conférence de gouverneurs. Parce que quand bien même la loi a été publiée, a été élaborée en 2008, il n'est pas normal qu'au lieu d'avoir 10 sessions, qu'on en ait 3. Donc ça fait 3 sur 10. Deuxième élément, intensifier, en fait, c'est un recadrage. Il faut reprendre le processus à l'endroit. On a une décentralisation à deux niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement ces provinces qui ont été régionalisées par la Constitution, qui a des compétences propres, et pour le fonctionnement desquelles on a véritablement besoin que les lois sectorielles dans les différents domaines et qu'on identifie les domaines prioritaires puissent être élaborés et que l'on sache effectivement quelles sont les charges qui sont dans ce domaine-là affectées aux provinces. Et puis deuxièmement, ce plan est effectivement des transferts de charges avec les ressources qui vont avec afin d'habituer ces provinces à mieux gérer. C'est une très bonne chose que l'on puisse penser que le budget d'investissement peut être alloué, exécuté en province. Encore faut-il se dire les choses comme elles sont, c'est que la gouvernance de ces provinces doit pouvoir être renforcée parce que quand on les regarde dans l'ensemble, c'est une gouvernance qui laisse à désirer. Donc on a déjà des problèmes au niveau national, on a davantage de problèmes au niveau provincial. Donc il faut que ce transfert se passe, qu'il soit programmé, planifié et accompagné avec un programme précis, patient, qui le renforce. C'est vrai, on peut dire, on fait aujourd'hui la décentralisation parce qu'il ne faut pas prêter le flanc à ceux qui veulent la balkanisation du pays, mais on risque aussi de balkaniser le pays si le processus n'est pas maîtrisé et si, en même temps que l'on va consolider les provinces, qu'on va leur donner des moyens, l'État lui-même ne se réforme pas pour pouvoir exercer la plénitude des fonctions, des prérogatives qui lui sont définies. Donc c'est un processus global qu'il ne faut pas regarder simplement d'un côté, mais qu'il faut reprendre. La décentralisation, aujourd'hui, n'a pas à être intensifiée comme si elle avait été démarrée. La décentralisation a été tuée dans sa mise en œuvre. Et donc aujourd'hui, il faut pouvoir la réinventer, retrouver de nouveaux repères et réorganiser les choses. Je vois qu'on parle de la loi sur la caisse des péréquations, mais cette loi...
On va en parler, Monsieur Sissanga, s'il vous plaît, tout à l'heure. Mais lorsque le gouvernement promet de remettre directement au gouverneur des provinces le budget d'investissement, est-ce que ça ne risque pas de créer un conflit entre les institutions provinciales, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, puisque ce sont les gouverneurs qui vont gérer cet argent-là?
Non, c'est là le problème. C'est-à-dire que les gouverneurs doivent gérer les provinces, sont censés gérer les provinces sous le regard et le contrôle des assemblées provinciales. Je veux dire, l'affaiblissement des institutions de l'État auxquelles on assiste au niveau national a atteint également les provinces. Donc, au niveau des provinces, la plupart des assemblées provinciales sont inexistantes ou n'exercent pas correctement leur mission. Mais il faut savoir, il faut le dire, que le budget, la gestion au quotidien et le relève de l'exécutif et les législatifs au niveau provincial est là pour pouvoir contrôler. Mais c'est que cette répartition des fonctions, cette gouvernance que l'on doit pouvoir retrouver au niveau provincial n'est pas réellement respectée et que la plupart des assemblées provinciales ne sont pas au niveau de pouvoir assurer un contrôle efficient et efficace de la gestion provinciale.
Alors on va prendre pour vous, Monsieur Sissanga, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Par exemple, l'eau. Les problèmes qui nous préoccupent au pays sont visiblement palpables. On ne voit aucune importance qu'on doit donner à cette conférence. Le gouverneur n'a jamais apporté les retombées significatives sur le vécu quotidien.
Alors, la conférence des gouverneurs n'a jamais apporté des retombées significatives sur les vécus quotidiens de la population, Monsieur Sissanga?
Non, les Congolais ne connaissent pas le fonctionnement de leurs propres institutions. La conférence de gouverneurs est un organisme consultatif. Il n'a pas à apporter des solutions. Les organismes qui gèrent l'État, vous avez l'exécutif au niveau national, le gouvernement national, et vous avez le gouvernement au niveau provincial. C'est eux qui répondent devant la population de la gestion au quotidien de l'État et des provinces. De l'autre côté, effectivement, les problèmes sont connus, mais la plupart de ces problèmes nécessitent le plus souvent des investissements qui sont importants. Le problème de l'eau, il ne s'agit pas de l'eau que l'on va puiser à la source, c'est construire un réseau de distribution d'eau, c'est de pouvoir l'entretenir, et c'est de pouvoir avoir une politique tarifaire qui correspond aux attentes de la population. Et ce sont tous ces éléments qui font que, parfois, il y a des questions que l'on peut considérer comme étant simples, mais qui sont en réalité complexe et nécessite une programmation et un suivi. Et c'est pourquoi les lois sectorielles dont j'ai parlé dans les différents secteurs qui doivent déterminer qui intervient à tel niveau, qui intervient à tel autre niveau, la réorganisation même de l'administration, parce qu'aujourd'hui, on a la même administration au niveau provincial et au niveau national, ça crée plus ou moins une confusion. Donc il y a un recadrage qu'il faut pouvoir faire, un recentrage de cette décentralisation. Deuxième élément, madame.
Brièvement.
Ce que la décentralisation au niveau, pensée au niveau des communes, au niveau des secteurs, je pense que les constituants de 2006 est allé un peu trop vite en besogne, c'est-à-dire qu'on a décentralisé à un niveau qui est tellement bas qu'il est difficile de pouvoir espérer l'efficacité des services publics à ce niveau-là.
Merci.
De ce point de vue, je suis partisan, en ce qui me concerne, et dans notre parti, qu'on puisse revoir la Constitution pour pouvoir augmenter peut-être le seuil de cette décentralisation, la ramener probablement au niveau du territoire.
Merci,
que
merci, M. Sessanga.
Au niveau des secteurs et des chefferies, où l'efficacité est peu probable.
Merci, M. Deli Sessanga. Maître Gilbert Kiatsingé, avocat expert en décentralisation. La décentralisation n'a jamais démarré en RDC. C'est votre avis aussi?
Je voudrais, madame, commencer par saluer tous les auditeurs de la radio Okapi et saluer également mes co-débatteurs. Mais je voudrais profiter de cette tribune pour émettre un point de vue sur la conférence des gouverneurs qui vient de se tenir le 18 et le 19 mars 2013. Au fait, lorsque j'ai lu les résolutions ou disons les recommandations qui ont été adoptées à ce niveau-là, j'ai eu comme l'impression que la conférence des gouverneurs a tendance à se transformer en une sorte de cadre où on vient, sinon atténuer la rigueur de certaines dispositions de la Constitution, ou à tout le moins, en tout cas, contourner l'application de certaines dispositions. J'ai vu des résolutions, des recommandations, par exemple sur la rétrocession, où les participants se félicitent du fait qu'on augmente la rétrocession, alors que la Constitution n'a jamais prévu qu'on pourrait se concerter, on pourrait faire des conciliabules autour du montant de la rétrocession. Il faut donc que de plus en plus on se réfère à la Constitution et que on se dise qu'il faut quand même ne pas se féliciter lorsqu'on n'est pas vraiment en harmonie avec les termes des dispositions constitutionnelles.
Et ce qui est consacré par la Constitution, c'est la retenue à la source.
La retenue à la source. Et donc on ne peut pas se féliciter que cette retenue ne soit pas appliquée. On peut trouver des termes un peu plus pudiques, mais ne pas se féliciter. Il y a aussi des dispositions, des recommandations qui donnent l'impression du déjà attendu. On n'a pas l'impression que la conférence des gouverneurs a innové, à part parce qu'elle a extrapolé un peu en parlant de la concertation nationale, la vie de la cohésion, tout ça. Et donc, on a l'impression que les ministres et les membres du gouvernement, qui étaient d'ailleurs très très nombreux à cette conférence-là, sont venus rendre compte aux gouverneurs de province de leurs activités, alors que ce n'est pas ça la mission de la conférence. On a l'impression que à un certain niveau de l'État, on avait besoin quand même qu'on avalise un certain point de vue par rapport à ce débat qui est d'actualité sur la cohésion nationale, sur le dialogue.
Mais ils ont évoqué les problèmes qui touchent leurs provinces respectives.
Bon, dans les recommandations que nous avons lues, on a l'impression que on est revenu rapidement sur les recommandations de la fois passée, on s'est félicité que telle recommandation ait été exécutée et telle autre, mais le reste c'est, bon, écoutez, la diplomatie a bien joué, la guerre à l'Est, c'est vraiment déjà attendu. Alors que nous sommes à l'heure où, au niveau de la communauté internationale, nous avons été classés les derniers par rapport à l'indice du développement humain. Dernier, alors que nous avons toutes les ressources. Nous pensions que les services sociaux de base qui permettent à la population de se retrouver dans l'action gouvernementale pourraient être mis en première position au lieu de formuler des recommandations.
Alors vous répondez à ma question maintenant sur la décentralisation? Vous pensez qu'elle n'a pas encore démarré en RDC?
Je suis parmi ceux qui pensent objectivement que la décentralisation, c'est un processus. Elle a démarré, mais elle connaît quelques difficultés dans son évolution. Il faut donc que l'on se mette d'accord sur certaines choses et qu'on accélère, qu'on dégage un peu plus de volonté politique dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, des dispositions qui régentent cette matière-là de la décentralisation. Mais elle a déjà démarré.
Et selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cette lenteur dans ce processus de décentralisation?
Bon, qu'est-ce qui expliquerait? C'est en fait à ce niveau-là que je n'ai pas compris en fait le contenu réel de l'expression intensification dans la mise en œuvre du processus de décentralisation, comme si quelqu'un quelque part est en train de bloquer. Alors que c'est un processus qui met, disons, en action un certain nombre d'acteurs. Il y a des lois qui doivent être votées au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, Le Parlement n'est pas membre de la conférence des gouverneurs pour qu'on lui impose d'intensifier la mise en œuvre. Il y a des textes, il y a aussi un certain nombre de choses qui doivent être faites par le pouvoir central, notamment ce qu'on appelle les transferts de compétences. Ça dépend de la volonté politique, mais aussi d'un certain nombre de préalables, parce que les transferts des charges telles que énoncées dans l'une des recommandations ne peut pas être accéléré tant qu'on ne sait pas que ce transfert-là implique le transfert des ressources humaines, c'est-à-dire les fonctionnaires, parce que chaque province, chaque entité territoriale décentralisée aura sa propre fonction publique qui sera régie par une loi qui n'est pas encore votée. Il faudrait transférer les ressources fiscales et budgétaires. Nous revenons encore sur la question des 40%. Il faudra transférer le patrimoine immobilier. C'est-à-dire, dans chaque province, il y a des immeubles qui appartiennent au domaine public de l'État, il y a des immeubles qui appartiennent au domaine privé de l'État, il faut les inventorier, il faut déterminer lesquels reviendront à la province, lesquels reviendront au pouvoir central, lesquels viendront à quelle entité territoriale décentralisée, parce que n'oublie pas que dans les provinces, il y a aussi des communes, il y a des villes. Donc, c'est toute cette question complexe qui ne signifie pas qu'on peut intensifier la mise en œuvre de la décentralisation. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être accomplis des formalités pour que cela ait un contenu.
Alors, on va prendre pour vous, Gilbert Kiatingué, cette réaction qui nous vient de Oïtcha, au Nord Kivu.
Moïse, depuis Oïtcha, chef-lieu du territoire de Beni, au Nord Kivu. Tout d'abord, je remercie les chefs de l'État pour l'organisation de telles rencontres qui permettent d'évaluer. Mais j'étais surpris d'attendre que les gouverneurs de province ont remercié le gouvernement central pour la régularité de la rétrocession. Mais eux rétrocèdent très rarement aux entités déconcentrées dont le territoire est cité. Au bureau du territoire de Beni, par exemple, où je suis, aux alentours, il y a des herbes qui poussent par-ci, par-là. Même chose au bureau, par exemple, des différentes cités du territoire de Beni. Beaucoup d'agents s'absentent et même au bureau de la cité tant au territoire. Quand nous essayons d'interroger les autorités locales, elles disent, ça passait par le dos de la cuillère, que cela est dit au retard de la rétrocession, pas moyen de payer les agents non pris à charge par le gouvernement central. Et il n'y a même pas moyen de payer les jardiniers, ainsi de suite.
Bref, réaction, Gilbert, qui est une aussi un grand problème.
C'est un problème
le
qui a été évoqué.
Le gouvernement central rétrocède aux provinces et les provinces ne rétrocèdent pas aux entités.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a une recommandation dans ce sens. Il est vrai qu'on va augmenter l'enveloppe de la rétrocession pour laquelle les gouverneurs se sont félicités. Mais on leur a demandé également de faire la même chose, de rétrocéder également aux entités territoriales décentralisées. Mais attention, les entités territoriales déconcentrées, elles marchent du budget du pouvoir central. Donc, ce n'est pas le pouvoir provincial qui supporte le fonctionnement des entités territoriales déconcentrées.
Alors, monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous allez réagir aussi brièvement à cette réaction de Papy qui est surpris d'entendre les gouverneurs remercier le gouvernement central qui rétrocède régulièrement sa quote-part, mais nombreux sont ces gouverneurs qui rétrocèdent rarement à leurs entités.
Oui, madame, je voudrais d'abord commencer par donner une précision. Les recommandations que le ministre de l'Intérieur a lues ne constituent pas les grandes recommandations de la conférence. Au terme de la loi portant organisation de la conférence de gouverneurs, à la fin de la conférence, il est lu ce qu'on appelle le compte-rendu public. Tandis que les grandes recommandations se retrouvent dans trois commissions qui ont fonctionné, à savoir la commission politique, administrative et juridique et sécuritaire, la commission financière et économique, et puis la commission développement et reconstruction. Il faut que les gens sachent que ce qui a été lu là s'appelle compte-rendu public, mais les grandes recommandations qui ont été formulées à travers les trois commissions sont plus de 50. Et le compte-rendu analytique, il est interne à la conférence et il sera évalué en mandaka. C'est la première précision que je voulais donner pour que les gens ne prennent pas ce qui a été lu comme l'ensemble des recommandations
Merci.
Formulées dans la conférence des gouverneurs tenue à Kananga.
Merci.
De deux, lorsque on nous parle par exemple des territoires, je suggérerais que l'expert ait donné la précision nécessaire. Les territoires ne sont pas des entités territoriales décentralisées, ce sont des entités déconcentrées. Et dans l'une des recommandations que nous avons prises dans la conférence des gouverneurs de Kananga, c'est qu'effectivement, on a demandé au gouvernement désormais de pourvoir aux dotations direct vers les territoires pour que ceci également puisse fonctionner. Et cela a été acté et ça sera effectif à partir de ce mois de mars. Donc désormais, le pouvoir central va directement affecter les dotations au niveau des territoires parce que sur le plan fonctionnel, les territoires doivent recevoir leurs dotations directement du pouvoir central. S'agissant des ETD, effectivement, il a été constaté que les transferts ou la rétrocession ne suit pas le volume de ce qui a amené en province, parce que simplement les provinces ne reçoivent pas les 40% qui leur sont dus, et de la même manière, ils répartissent un certain nombre de pourcentages aux ETD à l'intérieur de la province. Donc il est anormal pour les provinces, elles, de devoir rétrocéder 40% aux ETD, quand elles-mêmes ne reçoivent pas 40%. Donc c'est cela la précision que nous devons apporter. On rétrocède au prorata de ce que nous recevons du pouvoir central et que nous donnons aux entités décentralisées. Donc c'est une logique normale qui est faite au niveau des provinces. Vous recevez 15 ou 10%,
merci,
vous transférez aussi
le
15 ou 10%.
Là, vous êtes en train de vous répéter.
La pratique qui est faite dans les provinces.
Merci, monsieur le gouverneur. Une autre recommandation ici de cette conférence. La conférence a recommandé l'examen des voies et moyens pour poursuivre les efforts de financement des campagnes agricoles dans les provinces. Chaque année, la RDC débourse plus $1 milliard pour l'importation des produits alimentaires. Déclaration du ministre de l'Économie et Commerce hier, mardi à Kinshasa. Jean-Paul Nemoyat s'est ainsi exprimé lors de la cérémonie d'ouverture du Forum économique national FENAT 2013. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
En tant que ministre de l'économie et commerce, j'ai constaté que chaque année, mon pays débourse près de $1,3 milliard pour financer les importations alimentaires. Ce qui n'est pas acceptable pour un pays comme nous, compte tenu des potentialités agricoles naturelles et les avantages comparatifs que le pays peut forger dans le domaine de la production agricole alimentaire. C'est sur cette base que, ensemble avec le secteur privé, nous nous sommes concertés pour formuler le thème « Amélioration du climat des affaires et problématique de la relance de la production agricole et de l'industrie manufacturière ».
Alors, le ministre Nemoyato a précisé que les participants vont se pencher sur la relance de la production agricole et de l'industrie manufacturière en RDC. Monsieur le gouverneur, puisque c'est vous qui avez la parole, le gouvernement de Kinshasa avait initié la campagne agricole en juillet 2012. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cette campagne? Prenons le cas de votre province, brièvement.
Oui, c'est une des grandes recommandations également de la conférence. Et le Premier ministre a effectivement rassuré tous les participants que l'enveloppe d'à peu près $30 millions est déjà positionnée pour devoir financer les campagnes agricoles. On va donc commencer cette année pour effectivement produire tout ce que nous importons de l'extérieur. Parce que les 1 milliard que nous dépensons chaque année pour importer des produits vivriers, si cela est acheté, si cela est fait au niveau interne, ça va participer au financement de l'économie. Donc c'est une grande recommandation qui a été prise et le Premier ministre s'est dit prêt effectivement à positionner les $30 millions pour devoir relancer l'agriculture.
Merci.
On va voir peut-être, on va créer ce qu'on appelle les zonages, les zones spécialisées de production agricole, selon que telle province peut être spécialisée dans telle culture. Et donc à l'horizon peut-être 2015-2020, si cette relance est faite, ça va d'abord assurer l'autosuffisance alimentaire des Congolais. Mais également, ça va nous permettre de devoir exporter la surproduction et ainsi bénéficier de l'entrée des devises. Donc,
merci.
Ce sont des grandes questions que nous avons débattues, qu'on ne doit pas confondre avec le compte-rendu qui a été fait publiquement, qui n'a pas donné toutes les grandes recommandations qui ont été prises à Kananga.
Merci, monsieur le gouverneur Deli Sesanga. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique En Vol, plus d'un milliard de dollars américains pour l'importation des produits alimentaires. Comment expliquer qu'un pays comme la RDC, qui a des potentialités naturelles agricoles, puisse débourser une telle somme pour financer les importations alimentaires?
Bah écoutez, c'est le résultat de plusieurs décennies d'absence de vision en matière de politique agricole et de suivi d'une politique industrielle
Et le ministre de l'économie a raison de soulever la question. Le tout est de savoir quelles sont les solutions qui sont effectivement déployées. Il faut éviter les solutions à la va-vite. Il faut des solutions qui soient des solutions réelles et qui intègrent tous les aspects, notamment l'absence d'infrastructures, la politique des prix dans les milieux ruraux, et la politique de développement, y compris de ce centre-là, pour que la production puisse augmenter. Donc si il y a un concours en termes de mission, en termes d'amélioration de ce service public par l'allocation des moyens au travers du budget de l'État et les budgets des provinces, à mon avis, c'est un résultat auquel nous pouvons parvenir. Il ne faut pas oublier que le Congo a un potentiel en matière agricole qui est immense. Et donc, si les politiques sont correctement formulées à ce niveau-là, si elles font l'objet d'un suivi, à mon avis, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse atteindre les résultats. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs décennies d'absence de vision et de politique appropriée.
Alors, absence de vision de la part de ceux qui gouvernent, ceux qui sont au pouvoir?
Non, c'est pas absolument ceux qui sont là. Je veux dire, ils ont hérité d'une situation. Vous savez, pour relancer, créer une véritable filière agricole, il faut plusieurs années. Pour solvabiliser et stabiliser des professionnels dans une filière donnée, à mon avis, ça prend bien quelques années. Il serait fort malencontreux de mettre ça sur le dos du gouvernement actuel, qui a sa part de responsabilité parce qu'il est là depuis quelques temps, mais il n'a pas toute la responsabilité. Ils ont hérité de ce système tel qu'il est aujourd'hui. À l'époque de Mobutu, on importait déjà pour les produits alimentaires. Ça date d'ailleurs, vous savez, dans la ville comme Kinshasa, où les gens étaient habitués à consommer du poulet qui était de production locale, c'est pendant les années 60 qu'on est habitué à ces bembe d'Adoula, et donc ça créait des modes de consommation qui ne sont pas en adéquation avec nos propres modes de production, et ce que nous produisons n'est pas suffisamment valorisé pour être mis à la disposition de ceux qui peuvent le consommer. Donc il y a là un marché, parce qu'un milliard de dollars, c'est quand même pas rien, 1,3 milliard, bien réorienté, bien organisé, à mon avis, le pays pourrait pallier à cette demande-là, donc l'autosuffisance alimentaire. Mais il ne suffit pas de le dire, encore faut-il le faire, encore faut-il le traduire lorsque, par exemple, le gouvernement amène son budget, que l'on voit effectivement que cet effort-là est tenu. Mais qu'une fois que le budget est adopté, que les allocations adoptées par le Parlement puissent être respectées pour pouvoir renforcer la fonction agricole.
Merci,
il
ne
faut pas
Sassana.
En faire un folklore ou... juste une propagande.
Alors, merci, M. Sessanga. Maître Gilbert, qu'est-ce que la RDC peut faire pour ne plus être dépendante sur le plan alimentaire, je voulais dire, de l'extérieur, de l'étranger?
Moi, je crois que la RDC doit faire ce qu'elle a toujours demandé de faire.
Parce que
lorsque vous suivez tous les discours, programmes de gouvernement, vous suivez le budget, partout, l'agriculture a toujours été financé. Il y a toujours des ressources pour financer l'agriculture. Mais moi, je crois ici, lorsqu'on parle de campagne agricole qui sera financée à partir de cette année, je me pose tout de suite la question de savoir quel est le contenu de ce qui ressemble à ce slogan-là. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de l'agriculture, c'est tout un réseau complexe. Le pays, si le pays souffre la faim aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de production, mais c'est d'abord parce qu'il manque de routes de dessertes agricoles. Il y a des provinces comme le Maniema où on produit du riz qui pourrit dans les champs parce qu'on ne sait pas les écouler. Il y a certaines plantations à l'Équateur notamment où il y a toutes sortes de fruits mais qu'on ne peut pas évacuer. Donc, il ne faut pas seulement financer la campagne agricole, il faut penser aux routes de dessertes agricoles, il faut penser à la petite industrie parce qu'il y a des produits agricoles qui peuvent être transformés sur place, qui doivent être conservés sur place avant d'être exposé à la consommation du public. Et donc, il faut que ce soit une politique globale qui puisse tenir compte de tout ce qui entoure ce secteur-là de l'agriculture. Et c'est donc une matière transversale où on doit faire intervenir les provinces notamment parce que, comme vous le savez, c'est une compétence de proximité la Constitution dit que l'agriculture est une matière de la compétence exclusive des provinces. Mmh. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, je sais qu'il y avait des efforts pour essayer de rapprocher, de paroissialiser, comme je peux le dire, ce secteur-là, en créant ce qu'on appelait les CARG, hein, les comités agricoles, ruraux, de développement, quelque chose comme ça, où les paysans s'organisent pour se prendre en charge par rapport à la campagne agricole, par rapport à leurs produits, et ainsi de suite. Il faut donc rapprocher, il faut que cette politique de financement tienne compte de la nécessité de transférer les compétences, comme on l'a dit dans l'une des résolutions, transférer les compétences ou les charges aux provinces avec leurs ressources. Donc, qu'on transfère effectivement pour rapprocher cette compétence-là de la base pour Merci. Que ça soit efficace.
Merci, Maître Gilbert Kietzinger. Il nous reste moins de 4 minutes pour mettre fin à cette émission. Monsieur le gouverneur, parmi les résolutions, vous avez parlé aussi de la finalisation du projet de loi sur la Caisse nationale de péréquation.
Oui, exactement. Je comprends à travers les inquiétudes de mes co-débatteurs qu'il y a vraiment une nécessité de devoir publier toutes les recommandations pour que les gens voient que ce que nous avons fait à Kananga, ce n'était pas une promenade. C'est vraiment des assises qui ont défini une certaine vision par rapport à la République.
Alors,
la Caisse nationale de péréquation est une disposition qui est contenue dans notre Constitution. Je crois que c'est l'article 181. C'est pour financer effectivement les déséquilibres observés entre les provinces. Parce que même si on a les 40%, lorsqu'on a fait le tableau général, on a constaté qu'il y a par exemple 4 ou 5 provinces qui peuvent tenir le coup et que d'autres pratiquement vont devoir fonctionner difficilement. C'est cette caisse-là qui va effectivement financer le déséquilibre qui s'observerait. Et nous avons demandé que la loi relative soit rapidement votée par les deux chambres du Parlement pour effectivement que la décentralisation puisse être appuyée par le financement des déséquilibres que le mécanisme de fonctionnement devra créer. Donc je crois que cette caisse elle est très très urgente et nous estimons que comme la session a repris, il faudrait qu'on puisse aligner cette loi très rapidement pour permettre à ce qu'effectivement les provinces puissent fonctionner correctement au regard des dispositions que nous avons prises à Kananga.
Merci, monsieur le gouverneur. Je considère cela aussi comme votre conclusion. On n'a plus beaucoup de temps. Délice Essanga, vous êtes député national. Où en est-on avec cette loi sur la péréquation?
Parce que je pense qu'au-delà de tous les discours, au-delà de toutes les réunions et les résolutions, la chose fondamentale restera la volonté politique du gouvernement à pouvoir mettre en œuvre réellement la décentralisation. Vous parlez de cette loi, c'est un exemple. Savez-vous qu'il y a eu une proposition de loi qui avait été faite à l'époque par le professeur Lumanu, alors député national. Il est devenu ministre de l'Intérieur dans le gouvernement sous la législature 2006. Et jusqu'à la fin, cette loi n'a pas été adoptée. C'est à se demander aussi ce manque de volonté dans le chef du gouvernement, quand on regarde les grandes lois qui concernent l'organisation de l'État, n'ont jamais été des projets de loi et ont été essentiellement des propositions de loi venant de la part des députés.
Merci.
Donc, la volonté politique est un élément important. Le gouvernement doit le réaffirmer non seulement dans les communiqués, dans les discours, il doit
Merci.
Pouvoir le montrer et avoir une résolution plus déterminée.
Merci, Délice Essanga. Gilbert Kietzinger, en conclusion, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, je parle de la Caisse nationale de péréquation. En tant qu'expert, j'ai eu l'avantage à son temps de participer à l'élaboration d'un avant-projet de loi et de participer à la défense de ce texte devant la commission des lois. Mais je suis surpris qu'on dise qu'on doit encore élaborer un autre projet de loi. Il y a vraiment un problème de volonté politique. Lorsque des textes qui sont élaborés par les experts doivent moisir dans les tiroirs et qu'on doit... Donc il y a vraiment un problème sérieux. Et je crois que la décentralisation souffre justement de ce manque de volonté politique suffisante.
Merci Maître Gilbert Kietzinger. C'est la fin de cette émission. Bonne soirée sur Radio Okapi.